Et alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, Marc Luyer et Youssef Diab, enseignant-chercheur au Lab Urba, donc enseignant-chercheur à l'EIVP qui est en train de devenir composante de l'université Gustave Eiffel. Et donc, nous allons vous parler du point de vue de la ville dense et nous interroger donc si les solutions basées sur la nature en milieu urbain dense tendent vers l'avènement de la ville résiliente. Alors, voilà le sommaire de notre présentation. Tout d'abord, on va parler de nature et de développement de la ville moderne. Ensuite, des nouveaux défis qui se posent notamment depuis sur ces dernières décennies. Et nous présenterons deux exemples de gestion patrimoniale sur les réseaux d'assainissement parisiens et d'innovation résiliente sur les cours d'école Oasis non plus. Oasis. Donc, la ville de Paris est vraiment le contexte dans le cadre duquel on fait on illustre notre présentation. Alors, en 1850, Paris est une ville aux rues étroites, malsaines et mal éclairées, avec de graves problèmes d'alimentation en eau potable et d'assainissement, des logements insalubres entraînant des épidémies terribles, notamment les épidémies de choléra, c'est 20 000 morts en 1832, puis à nouveau 20 000 en 1848, uniquement à Paris, 100 000 dans toute la France en 1848, donc à mettre un peu au regard de la Covid actuelle. Et donc, face à ces préoccupations, la volonté de développer une ville moderne avec donc les travaux du préfet, du baron Haussmann, avec la volonté donc de construire une ville avec de larges avenues, donc le principe de la percée, arborée, des jardins, des squares, des parcs qui ont déjà, avec les préoccupations hygiénistes, posé le sujet de ramener la ville, la nature en ville. Ainsi, 60% du tissu parisien a été construit en 1850 et 1914 sur ce modèle. Donc, du coup, en termes de ville héritée et de gestion patrimoniale actuelle, c'est considérable. Et donc, quelques illustrations. Donc, on voit ici en haut à gauche le réseau d'assainissement tel qu'il était avant les travaux du préfet Haussmann et notamment de l'ingénieur Eugène Belgrand qui a travaillé.
Excuse-moi, Marc. Juste, je pensais que c'était que moi qui avais la présentation sous ce format-là, parce que j'anime la réunion, mais en fait, apparemment, elle n'est pas en plein écran. Elle est en plein écran pour personne, en fait.
Elle n'est pas en plein écran.
On a ton écran
Ah, là,
de
l'écran du
présentation,
texte.
quoi, si tu veux.
D'accord, j'inverse les deux. Alors, va être comme ça. Mince, et là, c'est. Non. Là, ça va être pareil. Comment faire? Bon, alors.
Tout à l'heure, c'était correct quand tu sais, quand tu as fait le test, c'était parfait.
Oui, pourtant,
Faut que tu démarres la présentation d'abord et après tu partages l'écran qui a la bonne présentation.
Ah
Ah
oui.
oui, c'est ça. D'accord, c'est ça. Au revoir, l'expert Zoom. Logiquement. Voilà, là, ça devrait être bon.
Alors, parfait.
Alors,
Merci.
merci, merci Corinne. Voilà, titre illustratif, on voit le réseau d'assainissement parisien avant les travaux d'Eugène Belgrand et du préfet Haussmann. Donc, en fait, finalement, il y avait un côté relativement naturel dans la mesure où les réseaux d'assainissement suivaient la pente du terrain naturel. Donc, on voit un ancien bras de la Seine ici qui a servi de fossé lors des fortifications du Moyen-Âge et ultérieur et qui est le collecteur principal à ciel ouvert des égouts parisiens. Et on a donc différents collecteurs qui se jettent dans la Seine. À proximité immédiate. Donc, avec les travaux d'Eugène Belgrand, on a un réseau qui est toujours gravitaire, mais qui va passer de façon, qui va être beaucoup plus ramifié, avec beaucoup plus de canalisation, et qui va pouvoir rejeter bien en aval de la ville de Paris, donc une boucle de la Seine en aval, du côté de Clichy. Donc, ce qu'on voit en fait, c'est que on a progressivement, avec l'extension des réseaux, on a l'assainissement de la ville, on a la complexification des réseaux et on a la baisse des épidémies. Et on a également de plus en plus d'espaces de nature récréative qui sont introduits en ville. Donc on voit ici l'évolution entre 1730 et 2017, où on a une nette augmentation. Mais en face de cela, on a un éloignement des externalités de la ville. et notamment des espaces de nature productive, donc tout ce qui est lié à l'agriculture, mais qui du coup sont des espaces également d'infiltration des eaux et des espaces de biodiversité avant que l'on utilise de façon radicale, de façon massive, des produits phytosanitaires. On voit ici l'extension du réseau d'assainissement actuel, donc on est encore bien au-delà de l'époque d'Eugène Belgrand et du préfet Haussmann, hein. On a encore descendu 2 ou 3 méandres en aval jusqu'à Achères, et on a extrêmement complexifié ce réseau à différents niveaux. Alors du coup, plusieurs défis se posent aujourd'hui. Tout d'abord, les problèmes de vieillissement liés à ce réseau. Donc, on a plusieurs milliers de kilomètres de réseau et on pourra intervenir que sur quelques kilomètres chaque année. Donc, comment prioriser les actions d'inspection comme de réhabilitation? Alors, un réseau, j'ai oublié de le dire, mais qui est unitaire. Donc, qui pose la question qui est unitaire, qui est quasi entièrement vide, qui est en grande partie visitable, comme on voit sur la photo, ce qui est quand même un très bon atout, mais qui est unitaire. Donc, il est un peu à l'encontre de ce qu'on a vu précédemment sur la volonté de villes spongieuses et d'infiltration d'eau dans les sols. On doit faire face également à des vagues de chaleur récurrentes avec l'îlot de chaleur urbain. Donc, la ville haussmannienne minérale, mais aussi la ville qui s'est développée dans les décennies qui suivent, induit de forts problèmes sur l'îlot de chaleur urbain. Donc, on a non seulement une récurrence et une intensité des vagues de chaleur qui vont augmenter, mais on a un différentiel de température de 8 degrés entre le cœur urbanisé et la campagne. Donc, 2003, c'est près de 10 000 morts. Donc, il y a une vraie préoccupation par rapport au fait de verdir la ville de façon à la rafraîchir, notamment. On remarque également les questions de neutralité carbone à l'horizon 2050, qui pose la question aussi de stockage du carbone, et donc d'avoir une ville plus utilisant plus des matériaux tels que le bois. On a également un problème de récurrence d'orages violents. Alors, en 2017, on a eu un orage très important. On a eu 3 semaines de pluie en une heure, du jamais vu depuis le début des mesures en 1880, une quinzaine de stations fermées. Et si on regarde les précédents records, 92, 95, 2001, on voit qu'on a quand même une nette augmentation de la recrudescence de ces orages. Donc, il y a un vrai problème de ces eaux de pluie, de la gestion de ces eaux d'orage qui ont occasionné donc, des fermetures de stations de métro, mais également des pollutions, puisque tout le réseau étant unitaire, les usines de traitement se trouvent sous-dimensionnées et l'obligation de relâcher cette eau polluée dans la Seine. Alors, on m'avait demandé un petit rappel sur les techniques alternatives de gestion à la source des eaux pluviales, donc notamment les noues végétalisées, les tranchées drainantes, les puits d'infiltration, la mise en œuvre de chaussées à structure réservoir, les toitures végétalisées, les jardins de pluie. Alors, un certain nombre de ces solutions peuvent être déployées, sont envisagées ou sont déployées, mais on a quand même quelque chose de très limitant dans le contexte urbain dense, comme on le voit sur cette illustration un petit peu schématique, hein, sur la gauche, de l'aménagement des sous-sols parisiens. Donc, on a un sous-sol qui est extrêmement aménagé et avec des réseaux sensibles. Donc, on voit les infrastructures du métro, d'assainissement notamment, etc. Très sensibles à de potentiels mouvements de sol. C'est des sols qui ont été extrêmement remblayés pour rendre les routes carrossables notamment, et l'infiltration des eaux pourrait créer des désordres très importants pour l'ensemble de ces réseaux fragiles. On voit à droite un cas un peu extrême, hein, c'est un fontis majeur qui a été trouvé sous la gare du Nord. Donc, vous voyez la taille d'un agent, hein, au milieu du fontis qui a été découvert. On se rend compte qu'avec ce type de phénomène, si on s'amuse à faire infiltrer des eaux, donc c'est du gypse, hein, c'est un fontis qui se fait par dissolution de gypse, si on favorise l'infiltration des eaux, on risque de développer ce type de phénomène là où il y a du gypse, c'est le cas sous la gare du Nord. Et donc, comme la ville a connu au 18e, au 19e siècle, des risques d'effondrement potentiels. Et donc, on voit l'importance de continuer à maintenir le réseau unitaire et de pérenniser sa gestion patrimoniale. Là-dessus, je vais laisser la parole à Youssef qui va nous parler de la gestion patrimoniale du réseau d'assainissement gravitaire. Et puis, je ferai un petit point sur les cours d'école Oasis après lui.
Oui, bonjour à tout le monde. Alors, moi, ce que je vous racontais comme histoire, elle est un peu ancienne, puisque tout ce qui est ancien à la ville de Paris doit être traité d'une manière stable et concertée. Alors, la stratégie de gestion patrimoniale de la ville de Paris, c'est quelque chose qui est assez ancien et qui est assez simple au bout du compte et qui est maintenu à travers justement l'évolution de la numérisation des données, de la partage des données avec les autres services de la ville, mais elle s'appuie sur trois étapes. La première, c'est la clé, c'est par la marque, c'est comme ça. Ok. Ok. Alors, du coup, trois étapes qui sont apparues. La classification des risques, et maintenant, c'est vraiment à travers le système d'information géographique. L'inspection et le diagnostic, et comme Marc le rappelait, on a un réseau visitable d'une dimension importante. Du coup, il y a pas mal de techniques, de technologies qui sont réalisées en sous-tranchée. On va dans l'égout et on l'auscule. Et la réhabilitation et la surveillance, qui sont aussi considérées comme des techniques et des technologies maîtrisées par la ville de Paris actuellement. Mais quand on les interroge, ces technologies, à l'ère des solutions basées sur la nature, on voit bien que ces technologies, a priori, sont très mauvaises parce qu'elles participent à la minéralisation du sous-sol parisien. Alors, du coup, je vais te laisser faire. Alors, quelques schémas pour illustrer ce propos. Le premier, c'est les principaux collecteurs de la ville de Paris. Je vous rappelle que la ville de Paris, intramuros, les 104 km de la ville, il y a 2100 km de réseau, mais quand même, il y a quelques collecteurs principaux qui participent à ce que disait Marc, à ramener l'eau, on voit bien par ses coulements gravitaires, vers le nord de la ville et pour aller les amener par la suite à la station d'Achères. Alors, je ne vais pas vous raconter les défauts majeurs de ce réseau d'assainissement unitaire où on mélange des eaux pluviales, les eaux usées qui sont transportées en quantité importante à la station d'Achères. Deuxième diapo suivante, Marc, s'il te plaît. Alors là aussi, ça rejoint ce que disait Marc sur le fait qu'on a pas mal d'aléas géotechniques dans le sous-sol parisien. Ce qu'on voit par exemple en haut à droite, c'est toute la fragilité du sous-sol parisien par la présence de massifs de gypse. Heureusement, on n'a pas les fontis que Marc avait présentés lors du creusement du RER à la gare du Nord, mais on a régulièrement des questions liées à des effondrements subis par ces fontis. Mais c'est un élément très important dans la politique de la gestion patrimoniale des réseaux d'assainissement. Ensuite, il faut savoir quand même que le schéma de ce réseau, il est très simple. On collecte les eaux pluviales, on collecte les eaux domestiques, avec deux tuyaux séparés, deux réseaux séparés, et en bas de l'ovoïde, tout ça, ça arrive et c'est mélangé et c'est transporté. Ça veut dire, franchement, si on était à refaire l'histoire d'Haussmann, on peut dire que c'est l'opposé de tout ce qui se fait en matière de développement durable. J'ose pas le dire très souvent, mais quand même, franchement, Haussmann et Belgrand, ils étaient très bons, un baron et un ingénieur, qui ont beaucoup travaillé sur l'hygiénisme de la ville, mais les questions de dire pollueur-payeur ou pollueur-non-payeur, ça ne les a pas concernés directement. Ils ont évacué les eaux à l'extérieur de la ville, chez les pauvres, et ont continué à vivre comme ça. Mais bon. Ensuite, alors du coup, cette politique, on pense qu'elle peut évoluer, mais en réalité, elle est très stable, et cette stabilité lui donne une force énorme. C'est-à-dire l'objectif ultime du service d'assainissement de Paris, d'arriver à cette note globale qui est basée sur la collecte des données. Et plus on avance avec les inspections des égouts par nos égouttiers très performants, plus on peut alimenter cette démarche qui est stable depuis plus de 20 ans. Et pour préparer cette présentation, j'ai regardé, j'ai posé la question au directeur adjoint du SAP. Il m'a dit, tu peux dire la même chose sur Tigre et Tigrou, ça n'a pas changé, ça marche très très bien, ces outils fonctionnent bien. La seule avancée, je dirais, pas avancée, parce que ce sont très, très bien, mais la seule évolution, c'est les données qui sont de plus en plus mises en avant. Mais bien sûr, derrière, on ne prend pas ce qu'on fait, nous, en tant que chercheurs, ce que Marc avait fait à un moment donné, les questions d'incertitude, les questions d'agrégation, les questions d'experts, tout ça. On reste sur des approches simples d'expertise et d'accumulation de connaissances et de capitalisation derrière. Alors, tout ça, je donne un exemple sur la diapo suivante sur le risque géotechnique. Finalement, dans le sous-sol parisien, on a cinq risques possibles. Les fins, les éléments fins qui sont charriés par les écoulements, le tassement éventuellement lié à des travaux, la dissolution des couches de gypse au nord-est de Paris, des vides qui sont présents aussi, et les argiles gonflantes. Mais là aussi, la réflexion a beaucoup évolué, puisqu'on dit finalement, avec le retour qu'on a, on a changé récemment cette règle d'agrégation pour l'argile. On n'a jamais vu un égout parisien s'effondrer ou avoir des dégâts importants à cause des argiles gonflantes, parce que les argiles sont présentes sous forme de lentilles qui exercent une poussée excessive sur les parois de l'ouvrage, qui peuvent générer des fissures, mais comme ces fissures, on peut les voir quand c'est à l'intrado de l'égout ou quand c'est à l'extrado, on peut les détecter par nos appareils non destructifs. Voilà, alors du coup, finalement, une présence d'argile très importante peut générer un risque fort, mais en réalité, elle ne générera pas un effondrement au risque déclaré. La même chose, enfin, ce n'est pas la même chose pour les massifs de gypse. La méthode est un peu plus complexe, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est aussi, c'est le travail actuellement du SAP, du service d'assainissement de Paris, va sur l'affinement, je dirais, de ces critères, de ces indicateurs. Alors, du coup, tout cela, comme on est sur les bases d'expertise, on arrive à cette note globale à la fin qui permet d'hierarchiser les tronçons, à diagnostiquer quand c'est, on peut faire du diagnostic, ou éventuellement, de plus en plus, maintenant, on dit il y a de l'argent, du coup, on fait des réhabilitations qui sont relativement classiques à la ville de Paris. Il y a six catégories de réhabilitation. L'exemple que je prends souvent, c'est le collecteur du Nord, parce que le collecteur du Nord, c'est un collecteur qui est terminé déjà depuis quelques années. On voit bien l'efficacité des solutions qui sont régulièrement vérifiées pour s'assurer, même comme vous le savez, dans le sous-sol, on n'a pas de garantie décennale pour s'assurer que les travaux sont bien réalisés. Alors du coup, un exemple pour finir sur ma partie sur la gestion patrimoniale, c'est la diapo suivante sur une technique de réhabilitation classique, celle-ci qui est utilisée dans le collecteur du Nord. On refait l'étanchéité de l'égout, ça c'est très bien, mais derrière, on est dans une logique quand même qui est une logique d'injection. Souvent, on dit, bah, finalement, il y a un problème de collage entre l'égout, entre le collecteur et le sol environnant. On fait des injections de régénération pour la maçonnerie qui est à l'intérieur, avec quand même des matériaux respectueux de l'environnement. Mais souvent, ce qu'on fait en injection, je dirais, de collage et en injection de remplissage quand il y en a besoin, on essaye d'utiliser de l'argile, la bentonite et tout ça, mais quand même, il faut savoir qu'il y a de la résine. Et ce sous-sol parisien, lorsque Marc a présenté les diapos, on voit bien qu'il est encombré, il est saturé, il est minéralisé, il est rempli à certains endroits. Par exemple, tout le secteur de Châtelet, il est clair que faire de l'infiltration n'a aucun sens. Vous arriverez à infiltrer pas grand-chose, mais ni en surface, ni en profondeur. Voilà la question qu'on se pose. Et finalement, est-ce que cette gestion patrimoniale des égouts parisiens qui a fait ses preuves parce qu'elle permet d'anticiper la gestion des moyens, avoir une programmation pluriannuelle pour aussi bien pour les diagnostics, pour l'auscultation et surtout pour la réhabilitation, est-ce que c'est quelque chose qui est compatible avec des solutions basées sur la nature? C'est une question qu'on se pose grâce à l'organisation de ces séminaires. À vrai dire, quand j'ai posé la question aux gens du SAP, ils m'ont dit « ah ben, on ne sait pas ». Voilà. En tout cas, Marc et moi, pour le moment, on ne sait pas. On sait qu'il y a des solutions basées sur la nature. C'est ce que Marc va présenter dans la partie suivante.
Merci beaucoup, Youssef. Il y a de plus en plus de préoccupations sur le verdissement de la ville et la mise en œuvre de solutions basées sur la nature, notamment à travers, alors il y a plusieurs éléments, mais notamment le plan climat qui prévoit des objectifs majeurs pour le verdissement de la ville. Plan climat qui est en train d'être intégré dans le nouveau PLU en cours de discussion de la ville et qui essaie d'intégrer au maximum toutes ces préoccupations qui ne sont pas uniquement réservées à la direction de l'eau et des espaces verts, mais qui doivent être intégrés par les autres directions, voirie, etc. Alors moi, pour faire court et pas trop déborder, je vais vous parler principalement du cas des 750 cours d'école Oasis prévus pour 2030. Donc c'est quand même quelque chose de très important, hein, 750 cours pour 2030, c'est à très court terme. Alors juste à noter, donc le plan climat qui s'articule avec le plan pluie, donc qui prévoit notamment d'empêcher les différentes installations de prévoir des rejets dans le qui réglementent les rejets qu'on peut faire dans le réseau unitaire et qui prévoit notamment de limiter au maximum. Alors ces cours d'école Oasis sont basés sur le principe justement de ne pas faire de rejets dans le réseau pluvial. Alors c'est quelque chose qui a été développé dans le cadre de la stratégie de résilience de la ville de Paris, dont je vais essayer de parler très très brièvement pour ne pas dépasser le temps. Donc la stratégie de résilience de la ville de Paris, qui a été développée dans le cadre du réseau 100 villes résilientes, promu et soutenu par la fondation Rockefeller, qui, partant de préoccupations très larges de résilience urbaine, s'est basée sur de la concertation réalisée en atelier, des échanges de bonnes pratiques à partir de différentes autres métropoles mondiales. Et notamment, les cours d'école Oasis sont empruntés d'un modèle qui vient de la ville de Milan. Donc, l'objectif, c'est de transformer les cours d'école en îlots de fraîcheur urbains pour lutter contre le risque canicule et qui fournit un abri pour les personnes vulnérables qui peuvent se rendre dans ces écoles, dans ces espaces rafraîchis. L'objectif, c'est de remplacer l'asphalte noir qu'il y a dans les cours. Alors, ça représente 70 hectares, donc c'est quand même assez important, l'ensemble des cours d'école. 70 hectares, assez bien répartis sur le territoire de la ville de Paris. Donc, remplacer l'asphalte noir par du béton drainant, à la fois pour éviter d'emmagasiner la chaleur et à la fois pour retenir les eaux en cas d'orage. La mise en place de fontaines dans les cours, augmenter les espaces verts, des potagers pédagogiques, des jardins partagés. Alors, initialement, 3 écoles étaient prévues pour la rentrée 2018. Puis, suite à une canicule qui a eu en juin 2018, il y a eu une demande qui s'est accrue, 40 écoles pour 2019 et maintenant 750 établissements d'ici à 2030. Alors voilà, quelques illustrations pour conclure, pas trop déborder le temps, hein, quelques illustrations de ces cours d'école Oasis. On pourra en revenir dans la discussion, les jardins partagés, les potagers, etc. etc. Juste en quelques mots de conclusion, hein, nous, la question qu'on se pose, c'est on voit qu'on a un réseau d'assainissement qui a une stratégie de gestion patrimoniale bien rodée, très efficace. Maintenant, la question qui se pose, et on voit les nouvelles techniques alternatives, et notamment les cours d'école Oasis, où là, il est beaucoup plus difficile de voir comment va se faire la gestion patrimoniale dans le temps. Est-ce qu'on n'a pas les risques de colmatage des bétons drainants? Est-ce que les espaces verts sur le long terme, comment cela va-t-il fonctionner exactement? Il y a vraiment une question de développer un modèle de gestion patrimoniale qui réunit les deux et qui permet de mieux mesurer les bénéfices, les intérêts de l'un par rapport à l'autre. On recoupe un peu les questions systémiques qui ont été soulevées dans d'autres présentations hier et ce matin, et d'intégrer ça dans quelque chose qui relie les différents systèmes les uns avec les autres. Voilà, sur ce, je vous remercie pour votre attention et à tout à l'heure dans la discussion.
Voilà, merci à vous Marc et Youssef. Je vais laisser la parole à mon collègue Frédéric Cherki parce qu'il a une première question à vous poser et ensuite on aura une autre de Philippe Lecointe. Je te laisse la parole Frédéric.
Merci. Merci pour la présentation. C'est intéressant à la fois de voir les limites des réseaux, de voir ce qui se fait en gestion patrimoniale et ce qu'on pourra peut-être appliquer sur les techniques alternatives. J'avais une question, moi, sur les cours Oasis que tu présentes en fin de ta présentation. Comment, dans une ville aussi dense en surface et en profondeur, on arrive à libérer du foncier ou de l'espace pour pouvoir avoir des espaces verts en plus? Est-ce qu'on est obligé uniquement de créer de la porosité dans l'espace gris? Comment on fait dans une ville comme Paris pour réussir à créer de la technique alternative, même si ce n'est pas de l'infiltration, c'est que de la rétention?
En fait, surtout, la ville de Paris s'est rendue compte qu'il y avait tout ce qui, les voiries, les cours d'école, ça représente une surface quand même très importante de la ville de Paris. Je crois que si on met les cours d'école et qu'on met toutes les voiries, on arrive, je ne sais plus, mais de l'ordre de 30%, je crois. Et du coup, sur lesquels la ville a la main, en fait, sur lesquels la ville a la main pour faire des transformations, ce qui est beaucoup moins le cas, bien entendu, pour les parcelles privées. Et donc, ça offre quand même un terrain de jeu pour des expérimentations et pour tester des techniques alternatives. Alors, dans les limites du sous-sol, hein, effectivement, pour ce qui est de la voirie, ce qui a été envisagé, c'était de faire des voiries réservoirs, de faire des réservoirs sous la chaussée, et pas de faire des infiltrations. Donc, on est dans la même logique que les cours d'école. Mais c'est vraiment une surface sur laquelle la ville a la main et sur laquelle il est possible de faire des expérimentations. Alors, il y en a également qui avaient été prévus sur la voirie, mais qui ont moins bien fonctionné, qui n'ont pas, en tout cas, fonctionné aussi bien que les cours d'école Oasis. Et on voit que si après le terrain est favorable et que les acteurs sont conquis, ça peut aller très vite. Maintenant, c'est les maires d'opposition étaient les premières à se demander pourquoi ils n'avaient pas de cours d'école Oasis et à en souhaiter eux aussi. Mais en fait, c'est surtout que, pour répondre de façon courte, c'est surtout que la municipalité a la main sur ces parcelles-là.
Oui, Frédéric, c'est la transformation du foncier, en fait. C'est pas libérer du foncier pour faire de l'alternative, c'est plutôt la transformation de ce foncier qui est sous la main pour essayer d'améliorer sa qualité environnementale et sa réponse au plan climat. Essentiellement, ça veut dire, comme dans le programme de la précédente mandature de la maire de Paris, il y avait je ne sais plus combien d'hectares d'espaces verts à rajouter, des espaces, voilà, ça fait des cours Oasis en font partie. C'est pas du foncier nouveau à créer pour le libérer, parce que sinon, ça deviendra très cher le mètre carré d'arbres et de solutions alternatives à Paris. Voilà.
Merci. Yves, je te laisse reprendre.